Ce matin-là, j'ai rendez-vous au palais de justice de Paris avec Julien Quéré. Julien Quéré est magistrat. Quand il a été affecté à la cour d'appel de Paris, en 2019, il a été chargé par le premier président, Jean-Michel Hayat, de gérer les activités pénales du service des assises en lien avec le terrorisme. Son gros dossier à Julien Quéré, c'est l'organisation du procès des attentats du 13 novembre qui doit s'ouvrir en septembre 2021. Un procès historique et hors norme. Ces attentats ont fait 131 morts, des centaines de blessés ou rescapés. Il y aura environ 1700 parties civiles, 330 avocats, plus de 1000 journalistes qui ont demandé une accréditation, et puis des accusés qu'il va falloir acheminer chaque jour sur une durée prévue de 8 mois, qui en fait en seront 10. Tout ça en pleine pandémie de Covid. Alors en termes de logistique et de sécurité, c'est un truc énorme. Et c'est ça que Julien Quéré doit organiser. Mais il a une autre charge, c'est la web radio. Alors évidemment, ça paraît pas grand-chose par rapport au reste, mais moi c'est ça qui m'intéresse, et manifestement, ça n'a pas été sans importance dans la réussite du procès.
Le code a changé.
Quand Julien Quéré monte les marches du palais de justice, en haut desquelles je l'attends, je reconnais tout de suite, parce que j'ai lu son portrait dans une des chroniques du procès qu'Emmanuel Carrère avait publié dans Nouvel Obs. Une chronique qui est aussi un bel hommage à son rôle pendant le procès. Carrère rapporte le récit d'Aurélie, dont le mari Mathieu a été tué au Bataclan. Aurélie a décidé qu'elle ne témoignerait pas, qu'elle n'irait même pas au procès. Et puis, je cite Carrère. Le 8 septembre 2021, un ami du Bataclan insiste pour qu'elle l'accompagne. Elle y va entraînant les pieds, décidée à s'arrêter place Dauphine, avant le premier contrôle de police. Maintenant qu'elle est sur zone, elle est quand même tentée d'entrer, et c'est évidemment impossible parce qu'elle n'a rien. Ni accréditation, ni badge, pas même de pièce d'identité. Surgit un type mince et nerveux à qui son ami et elle exposent le problème, et il dit au gendarme de la laisser entrer, et le lendemain, on lui fait un badge. Le type mince et nerveux s'appelle Julien Quéré. Et il est important d'écrire son nom, car presque tout le monde a une histoire de ce genre où Julien Quéré dénoue avec un tact et une efficacité surnaturelle les situations inextricables. Voilà donc pourquoi, ce matin pluvieux, je reconnais tout de suite Julien Quéré quand il monte 4 à 4 les marches du palais de justice. Pendant que j'essaie de le suivre dans les couloirs et les escaliers, il m'explique que, face au caractère exceptionnel de ce procès, l'institution s'était mise en capacité d'accueillir physiquement l'ensemble des parties civiles et des avocats. Et d'ailleurs, quand on passe devant des fenêtres qui donnent sur les toits, il évoque le dispositif de sécurité complètement dingue qui était déployé chaque jour. Une fois assis dans un bureau, on commence à parler de ce qui m'amène, l'histoire de la web radio. Julien Quéré m'explique que le président de la cour d'appel de Paris, Jean-Michel Hayat, avait en tête un impératif. Il était hors de question que des parties civiles qui avaient tenté de reconstruire leur vie depuis 6 ans doivent la remettre en parenthèse pendant toute la durée du procès. Arthur Desnouveaux, qui préside Life for Paris, une des associations de victimes du 13 novembre, m'avait raconté que Jean-Michel Hayat avait d'abord proposé une web télé. Pourquoi une web télé ? Julien Quéré m'explique comment cette solution était apparue à son supérieur hiérarchique.
Il avait cette idée d'innover juridiquement, judiciairement, parce qu'il y avait des gros procès à organiser, notamment des procès en matière de santé publique, d'accidents collectifs où le nombre de parties civiles et d'avocats dépasse plusieurs centaines. Donc, cette idée mûrissait dans son esprit pour ces procès-là. Et en arrivant à la cour d'appel de Paris, avec ce procès historique à organiser, il avait là encore cette idée de créer une web télé.
Deux choses intéressantes là. L'idée de la web télé résout un des problèmes de ce procès exceptionnel. Mais il pourrait résoudre le problème posé par d'autres procès. Des procès très longs et qui comptent un grand nombre de parties civiles. Deuxième chose intéressante, tout ça s'inscrit dans un processus de modernisation de la justice, modernisation juridique et technologique. Bon, ça paraît un peu bête de s'en étonner, il est assez évident que la justice évolue avec les technologies, retransmission des audiences dans d'autres salles que celles du tribunal, ou interrogatoires et dépositions à distance par webcam. Enfin, là on parle d'autre chose. Alors, c'est quoi les obstacles ?
L'état du droit interdisait en fait ce type de dispositif dans la mesure où toute captation d'images ou de sons dans une salle d'audience est prohibée en fait dans le droit qui était en vigueur à cette époque-là. Il y a une seule exception qui existait, c'était ce qu'on appelle l'enregistrement historique, la loi Bernater de 1985. Et donc pour aller au-delà et créer une web télé, plus tard une web radio, il fallait changer la loi. Et après, il fallait aussi s'interroger sur l'appréhension que pourrait faire l'ensemble des acteurs judiciaires de ce nouveau dispositif qui est révolutionnaire. Enfin, à l'époque, il était véritablement révolutionnaire. La première réaction, c'était d'abord des réticences. Dans le cadre de ce procès, c'était notamment pour des raisons de sécurité. Et nos collègues magistrats, en tout cas, avançaient cet aspect-là, qui se comprend totalement, on l'avait également en tête. La web télé, c'est des images de procès avec des magistrats aussi, et des visages, qui sont diffusés sur Internet avec un risque de piratage ou de deepfake, etc., etc. Et donc ça, c'était ce qui était craint le plus. Il y avait aussi des aspects sécurité, avec différents témoins, des enquêteurs de police ou autres, qui nous disaient qu'ils appréhendaient un témoignage à l'audience à visage découvert. Ensuite, du côté des avocats, on n'avait pas eu une franche hostilité, mais c'était vu quand même avec distance. Donc on a dû abandonner l'idée de la web télé qui paraissait trop compliquée, en tout cas pour ce procès-là.
Intéressant. Les réticences des magistrats et des enquêteurs s'ajoutent à celles des avocats qu'Arthur m'avait un peu expliqué dans l'épisode précédent. Donc, pas de web télé. C'est là où, comme il l'a raconté, Arthur Desnouveaux arrive avec l'idée d'une web radio. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment réagissent les acteurs judiciaires quand on leur présente cette possibilité?
On a vu que toutes les réticences initiales pouvaient être levées, alors avec un certain nombre de précautions à prendre, mais c'est non pas en dégradant, mais en diminuant nos ambitions qu'on a réussi à obtenir, si ce n'est l'accord de tous, en tout cas un accord.
Alors là, j'ai un réflexe corporatiste, hein. Pourquoi Julien Quéret parle-t-il de diminution de l'ambition au passage de la télé à la radio? Est-ce que dans un procès, c'est pas la parole qui est la plus importante?
La parole est bien évidemment essentielle. Maintenant, dans un procès, les visages, les ressentis, les images qu'on pourrait passer aussi au procès sont fondamentales. On peut avoir des paroles qui sont dites avec distance, froideur et autres, et on voit bien que le visage ne reflète pas cette distance qu'on pourrait seulement entendre. Je me souviens, il y a eu des PowerPoints qui ont été diffusés, il y a eu des vidéos de propagande qui ont également été diffusées. Parfois, l'image pouvait rajouter des éléments. Et encore une fois, sur le ressenti de l'audience, c'est quand même pas la même chose d'entendre et de voir. Mais on s'est dit qu'entendre était déjà beaucoup.
Pas mal rattrapé. Donc, une fois les acteurs convaincus, il faut lever l'autre obstacle, celui du droit. Qu'est-ce qu'il fallait modifier dans la loi pour que la web radio soit autorisée?
Il fallait modifier le code du patrimoine, parce que c'est dans ce code du patrimoine qu'était insérée donc cette exception à l'interdiction et à la prohibition totale de tout enregistrement sonore à l'audience. Donc nous, on a changé aussi le code de procédure pénale en rajoutant en fait une nouvelle dérogation à cette interdiction absolue, une dérogation supplémentaire qu'on ne voulait pas simplement pour le procès des attentats du 13 novembre, mais qui serait une dérogation possible pour un certain nombre de procès. Les affaires de terrorisme, d'accidents collectifs ou de santé publique, parce que ce sont les trois domaines où il y avait un nombre conséquent de parties civiles qu'il est difficile d'accueillir dans des conditions idéales dans les lieux judiciaires.
Ok, donc il y a bien l'idée de tester un dispositif qui puisse se répliquer dans des procès obéissant à certaines conditions, évidemment. Cette web radio, c'est potentiellement le début de quelque chose aussi. Mais une fois que le droit est changé, il y a un autre défi, le défi technique. Et là, je suis très curieux de savoir quels sont les problèmes qui se posent alors à la justice.
C'était d'abord de faire en sorte que dans la salle d'audience, les capacités d'enregistrement soient de qualité excellente. Alors, on l'avait déjà fait pour la salle d'audience en elle-même et pour toutes les autres salles de retransmission. Ça n'empêche qu'il fallait s'assurer de ça. Et donc, on avait une véritable régie qui gérait l'enregistrement audiovisuel. Et donc là, il fallait distinguer les flux. Alors là encore, je ne suis pas un spécialiste, mais prendre uniquement le flux audio. Et ensuite, une fois qu'il était récupéré, l'envoyer sur une plateforme sécurisée, administrée donc en interne de mémoire. Ensuite, il y avait tout un défi aussi pour savoir comment on fournissait les logins et mots de passe aux parties civiles en question et faire en sorte que ça soit le plus sécurisé possible.
En effet. Mais ce que vient de dire Julien Quéret sur la nécessité de sécuriser les mots de passe et leur envoi aux parties civiles, ça soulève une question qui me turlupine en fait depuis que je m'intéresse à cette web radio. pourquoi ne donner l'accès qu'aux parties civiles et pas aux avocats aussi? Ça me semble pas complètement évident.
Parce qu'il aurait fallu qu'on se pose la question, quel avocat? Si ce dispositif avait été mis à la disposition des avocats de partie civile, il aurait fallu le faire, en termes d'égalité des armes, pour les avocats défense. Pour autant, les avocats défense, on en a nécessairement besoin à l'audience. L'idée, c'était pas de faire un procès virtuel et un procès à distance. Le procès se tenait bien dans la salle d'audience principale de la cour d'assises de Paris, donc au sein du palais de justice de Paris. C'était le seul lieu où il se tenait, ce procès. Et c'était uniquement une faculté supplémentaire qu'on voulait offrir aux parties civiles, et uniquement aux parties civiles.
Intéressant, hein, cette volonté de ne pas faire un procès virtuel, comme le dit Julien Quéré. Cette volonté d'avoir recours à un outil numérique, mais qui ne déplace pas l'audience hors de la salle. J'imagine que ça a dû présider au choix de placement des micros, par exemple. Pour garantir par le son la présence de la salle, pour ne pas suspendre dans l'air la parole des acteurs. Mais bon, c'est con, j'ai pas pensé à poser la question à Julien Quéré, parce que moi j'étais focus là sur le reste de son propos. Je comprends ce qu'il dit sur le souci de la préservation de l'équilibre entre les différents acteurs. Mais je comprends aussi quelque chose qui est un substrat fondamental de ce procès et dont la web radio n'est qu'une des manifestations. À savoir la place gigantesque et même peut-être assez inédite qui a été faite au confort des parties civiles dans ce procès. D'ailleurs, je me souviens que la fabuleuse chroniqueuse judiciaire du Monde, Pascal Robert Diard, l'avait relevé dans un article. Est-ce qu'on ne chouchoute pas un peu trop les parties civiles, avait-elle écrit. Bon, évidemment, je traduis grossièrement. Hein. Et ça avait fait grincer des dents, je me souviens. Bon, moi, j'ai aucun avis sur la question, mais je remarque juste que ce souci pour les parties civiles, eh ben, c'est LA raison d'être de cette web radio. Pour autant, les parties civiles, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Bon, par exemple, Julien Quéré confirme ce que m'avait dit Arthur. A bien été créé un délit d'enregistrement et de diffusion publique de cette captation. D'ailleurs, pendant qu'on discute, Julien me montre l'article de loi, il l'a imprimé. Hein. Toute personne convaincue d'avoir enregistré ou diffusé un son provenant de la web radio risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Alors là, quand il me montre ça, je tique. Parce que moi, je vois pas du tout comment il était possible d'empêcher que des gens enregistrent la captation. Alors, quand je fais la remarque à Julien Quéré, eh ben, il m'explique que l'accent a donc été mis sur le contrôle de la diffusion.
On avait créé aussi des solutions techniques qui permettaient de déterminer, si diffusion publique il y avait, de savoir de quel flux ça provenait. Et donc on avait indiqué aux parties civiles qu'il ne fallait pas qu'elles s'amusent à le diffuser parce qu'on arriverait à déterminer avec du watermark sur quel login mot de passe en fait cet enregistrement avait été récupéré.
Alors là, dans un premier temps, j'ai admiré le degré de sophistication. Avoir recours au watermarking pour tracer l'enregistrement d'une captation, franchement, c'est pas mal. Et puis après, j'ai tiqué. Comment c'est possible techniquement de marquer le son de telle manière que même s'il sort d'un ordinateur pour entrer dans un autre appareil, il garde une trace qui le relie de façon certaine à une source? Bon, là, j'ai appelé un copain vachement fort qui m'a expliqué que bah ouais, c'était possible et déjà pratiqué notamment pour des questions de droit d'auteur. Et que sans doute c'était pas si lourd à installer d'ailleurs. Je suis rassuré donc, la justice française n'a pas bluffé. Mais si tout ça est mis en place, c'est qu'il y a vraiment une crainte que ces sons ne sortent un jour. Alors, je suis peut-être naïf, hein, mais j'avoue ne pas vraiment saisir les raisons de cette crainte.
On était peut-être un peu paranoïaque aussi, mais on était à un moment où Daesh commençait à s'affaiblir, bien évidemment. Ça n'empêche qu'on a vu qu'ils avaient des capacités audiovisuelles très importantes, et ce que j'ai dit sur la web télé était aussi valable côté web radio. Donc c'était aussi éviter, par exemple, qu'un propos du président, d'un avocat, d'une partie civile ou tout autre soit déformé et qu'on fasse dire quelque chose qui n'a pas été dit, mais avec la voix de tel ou tel intervenant. Et ça, fallait vraiment, vraiment l'éviter.
Ok. Et de fait, les précautions ont porté leurs fruits, puisque, au dire de Julien Quéré, ça n'a pas eu lieu. Aucun son provenant de la web radio ne s'est retrouvé sur Internet. Alors maintenant, j'aimerais qu'on en vienne aux choix techniques. Le premier qui me questionne, c'est celui consistant à imposer un flux continu. Impossible sur la web radio de revenir en arrière ou de réécouter la journée une fois que l'audience est terminée. Arthur Desnouveau, il m'avait fait part des raisons qu'il voyait, c'est-à-dire ne pas donner plus de confort dans l'écoute aux parties civiles qu'au reste des acteurs du procès, en leur permettant à elles seules de réentendre des choses qui avaient été dites. Mais moi, j'aimerais savoir si Julien Quéré me donne les mêmes raisons.
On y a réfléchi, et je vais vous dire très clairement les choses, c'était à ce moment-là trop compliqué. Et on s'est dit qu'il valait mieux faire en sorte que ça fonctionne en direct, plutôt que ça fonctionne mal en replay. Ensuite, c'était une faculté qu'on voulait offrir, mais le replay aurait posé d'autres questions, combien de temps on laisse telle ou telle audience, et on voulait pas forcément se lancer directement là-dedans.
C'est drôle ça, que Julien Quéret avance des raisons techniques. Il était trop tard pour garantir que ça marche. Bon, moi je trouve que ça raconte quelque chose de la manière dont la technologie, à partir du moment où on la fait entrer dans un processus, impose d'une certaine manière ses lois, même à l'institution judiciaire. Bon, néanmoins, une autre possibilité technique à utiliser, c'est celle du décalage de 30 minutes entre l'audience elle-même et sa diffusion sur le web. Et là encore, j'aimerais savoir quelles raisons ont présidé à sa mise en place.
J'ai employé le mot paranoïaque tout à l'heure. On voulait éviter qu'il se passe quelque chose à l'audience de totalement non maîtrisé. Et si on a mis plus de 250 gendarmes uniquement sur ce procès pour assurer la sécurité du procès, c'est pas pour rien. Et donc il était pour nous hors de question que quelqu'un, via la web radio dans son salon, entende quelque chose qui se passe dans la salle d'audience, potentiellement incompréhensible pour lui sans avoir les images. Et donc ce léger différé était prévu pour ça. Sur le plan sécuritaire, on a tout envisagé. Et l'arrivée d'un commando au sein du palais de justice était aussi envisagée. Enfin, donc, bon, on voulait pouvoir couper la web radio à n'importe quel moment sans que ça ait les prémices d'un incident aient été entendues.
Encore une fois, le souci de préserver les parties civiles est manifeste. Autre question concernant les choix techniques. Celui du design du player et de l'application. Arthur Desnouveaux, il m'a montré une capture d'écran du player. Couleur bois clair. Mais ça m'intrigue. Quelles étaient les informations qui étaient inscrites sur cette interface et celles qui n'étaient pas inscrites ? Magali m'a expliqué qu'on ne savait pas qui parlait, par exemple.
Très vite, en fait, on nous a proposé, je vais être franc, c'est pas nous qui avons été à l'initiative de tout ça, mais on nous a proposé différentes solutions, notamment une avec un visuel qui rappelait la salle d'audience. Il y avait un espèce d'accord, en fait, entre le visuel de la plateforme et ce qu'on pouvait vivre comme expérience humaine au sein du palais. Il y avait aussi des informations qu'on souhaitait importantes. La première, c'était que le fait d'enregistrer ou de diffuser cet enregistrement était un délit. On voulait vraiment que tout le monde l'ait bien en tête. Il y avait aussi le numéro de téléphone de soutien psychologique qui était normalement aussi tout le temps sur le visuel en question quand la web radio était lancée. Et il y avait également des informations complémentaires. On s'était dit, il va être difficile de suivre un procès sans savoir qui parle. Là encore, on s'est posé pas mal de questions. Il était impossible, non pas techniquement, mais en termes de suivi, de marquer c'est maître un tel ou l'avocat général un tel qui parle, qui pose une question, etc. Donc on avait essayé d'envisager les situations formelles les plus courantes au sein d'un procès. Donc ce qui avait marqué, par exemple, c'était interrogatoire d'un accusé, question d'un avocat de partie civile, question d'un avocat défense. Concrètement, c'était un technicien qui était au sein de la régie audiovisuelle, qui avait une petite tablette et qui appuyait sur le bouton en question. Mais lui n'était pas en capacité de savoir cet avocat s'appelle Maître Reinhardt ou un autre avocat. Et donc c'était non nominatif, mais qu'on comprenne quand même de quoi on cause à ce moment-là.
Ce que je trouve intéressant, encore une fois, c'est le mélange entre des choix qui sont très pensés, hein, par exemple le design et la typo qui rappellent la salle d'audience, ce que je trouve assez beau comme idée d'ailleurs, hein, et d'autres choix qui relèvent de raisons assez triviales, du genre, ben ouais, il aurait fallu quelqu'un pour donner et inscrire les noms de chaque interlocuteur et ça c'est compliqué. Et tout ça, ce qui m'étonne aussi, c'est que ça n'a pas l'air de chagriner Julien Quéret plus que ça. Alors, je lui demande si, sur ce plan des impossibilités techniques, il n'y a pas eu quand même, malgré tout, quelques regrets.
Il y a eu deux écueils qu'on n'a pas su éviter. Le premier, c'était est-ce que il était possible de se connecter à la web radio depuis l'étranger, voire même les dom-toms. Il avait été décidé que ça soit possible, mais là, pour le coup, assez rapidement, les services techniques de la chancellerie nous ont dit qu'il y avait des problèmes de piratage informatique conséquent. Le fait de passer à l'autre bout du monde nous obligeait à aller sur d'autres plateformes qu'on ne maîtrisait pas forcément, alors que la plateforme qu'on utilisait, on la maîtrisait en termes de sécurité informatique. Et il a été décidé, tout début septembre, d'interdire cette possibilité. Ça n'a pas forcément été bien vécu. On a, tout le long du procès, essayé avec des avocats de partie civile qui étaient à l'étranger de leur permettre de suivre un certain nombre de débats. Alors ça a mis plusieurs semaines, hein, j'en conviens, mais on avait réussi à discuter avec les autorités consulaires pour mettre en place, alors c'était pas une web radio, mais c'était une sorte de visioconférence au sein des ambassades. Alors, c'est pas non plus l'idéal, il faut se rendre au consulat ou à l'ambassade, mais pour suivre les débats. Ça a été très peu utilisé finalement, mais c'est ce qu'on a pu faire. Deuxième chose, et c'était lié, c'était la traduction des débats. On n'a pas eu le temps de prévoir cette traduction pour les victimes étrangères, mais on a réussi à résoudre donc ces deux questions, l'accès à l'international et au dom-tom et la traduction des débats pour le procès de Nice, donc qui s'est tenu quelques mois plus tard. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé sur ces solutions techniques et juridiques pendant le procès du 13 novembre pour les procès suivants.
Alors ça, j'avais pas du tout pensé à ces deux problèmes. L'écoute de la web radio depuis l'étranger et les dom-toms et la traduction. Mais encore une fois, en écoutant Julien Quéré, je comprends à quel point, pour ce type de procès, s'enchevêtrent le juridique, le sécuritaire et la technique, tout ça pour essayer de répondre à cet impératif de considération pour les parties civiles. Enfin, quand même, il y a une information dans ce que vient de dire Julien Quéré. La web radio a été reconduite pour le procès de l'attentat de Nice. Et là, le fait de pouvoir l'écouter hors des frontières de la métropole, et disposer aussi de traductions en quatre langues, c'était manifestement plus important que pour le procès du 13 novembre. Sur la promenade des Anglais, le soir du 14 juillet 2016, les victimes étrangères et non francophones ont été nombreuses. C'est intéressant de constater qu'il y a une évolution technique entre les deux expériences, et toujours dans le sens d'augmenter l'accès à l'audience. Et ça d'ailleurs, ça pose une question au sujet du procès du 13 novembre. Est-ce que beaucoup de gens ont écouté la web radio ?
Moi, toutes les semaines, je recevais donc, les chiffres. Concrètement, on a environ 1 millier de personnes qui ont demandé des codes d'activation pour la web radio. 850 à 900 se sont effectivement connectés. Et on a eu des pics à ce qu'on appelle des connexions simultanées, à plus de 420 pour, par exemple, l'audition de François Hollande. On avait aussi les auditions de François Molins à près de 200. Et il y avait les interrogatoires des principaux accusés qui faisaient l'objet, là encore, de pics d'affluence, que ça soit dans la salle d'audience que sur la web radio. Après, on a eu, bien évidemment, le début du procès et la fin du procès avec le verdict qui est aussi monté en pic.
Plusieurs choses m'intéressent là-dedans. D'abord, les pics d'audience correspondent au moment dont on parlait, Magali et Arthur. La déposition de François Hollande, on a peut-être enfin l'explication des petites coupures que Magali avait relevées, les interrogatoires des principaux accusés, Salah Abdeslam en tête, et puis les témoignages des rescapés au début et à la fin du procès. Deuxième information intéressante, les pics d'audience de la web radio sont, au dire de Julien Quéré, les mêmes que ceux de l'affluence au palais de justice. L'hypothèse, c'est donc que la web radio n'a pas créé d'attente spécifique. Enfin, en gros, les personnes qui écoutaient la web radio avaient les mêmes attentes que celles qui se rendaient au procès. Mais si elles sont significatives, hein, ces données me frustrent presque. J'aurais été tenté d'avoir des métriques, mais vachement plus fines. Il me semble qu'il aurait été assez simple de savoir quels étaient les profils des gens qui écoutaient. Est-ce que, par exemple, les femmes ont plus écouté que les hommes ? Est-ce que l'écoute était une question d'âge, de profil sociologique ? Est-ce que, proportionnellement, les parties civiles du Bataclan ont plus suivi que celles du Stade de France ? Enfin, plein de trucs comme ça qui pouvaient, me semble-t-il, être assez facilement obtenus.
On ne s'est pas lancé, effectivement, dans ces statistiques-là qui étaient techniquement possible, parce qu'on considérait que ce n'est pas forcément à nous de connaître tout ça. Je pense que les données ont été conservées. Si un jour ça intéresse un chercheur ou autre, on avait des contingences CNIL et Informatique et Liberté qui étaient aussi importantes, donc il n'est pas impossible qu'elles aient été finalement détruites. Je ne peux pas y répondre.
Bon, j'avoue, je ne me suis pas renseigné sur l'avis que la CNIL a forcément dû rendre sur la captation. Peut-être d'ailleurs l'anonymisation de la connexion a-t-elle été requise, ce qui empêchait toute une part des statistiques dont j'aurais rêvé, moi j'en sais rien. Mais de toute façon, j'aime assez l'idée que tout n'ait pas été mesuré. Tout comme j'aime l'idée que ce qui a été mesuré a peut-être été effacé. Ou alors gît quelque part dans un serveur depuis la fin du procès. Si c'est le cas, bon, c'est un peu dommage pour la recherche, mais moi je m'en fous, je suis pas chercheur. Bon, puisqu'on en est à ces considérations sur la disparition, venons-en au bilan. Arthur et Magali, dans l'épisode précédent, ils l'ont fait, chacun, du point de vue des parties civiles. Et il était plutôt très positif. Mais qu'est-ce qu'il en est du point de vue de l'institution judiciaire ?
On avait, nous, des craintes, mais on s'est rendu compte que c'était finalement une faculté offerte qui était désormais nécessaire. Et c'est pour ça que notre idée, ce n'était pas de le faire que sur ce procès-là. Et si ça fonctionnait, et ça a été le cas, de le développer pour d'autres procès. Donc pour nous, ça a été une réussite. On est fiers d'avoir porté cette innovation et on espère que ça pourra être utile pour d'autres procès, donc pour d'autres parties civiles.
Ok, tout le monde a l'air content donc. Mais là, c'est le moment d'aborder la question qui fâche, le coût. Parce que j'imagine que ça a dû coûter assez cher, la web radio.
Oui.
Vous avez une idée, vous pouvez dire ça, le prix à peu près?
Non, parce que je ne l'ai pas, pour être franc, mais module par module, j'entendais parfois des sommes qui étaient engagées. Il y avait une personne au quotidien, je vous l'ai dit, qui était dans la régie, qui s'occupait que de la web radio. Donc oui, c'est un coût, mais on a considéré, comme dans tous les pans de l'organisation de ce procès, que l'institution judiciaire se devait d'être à la hauteur des enjeux. Donc on a décidé de... C'était déjà le quoi qu'il en coûte, en fait, quelque part, pour l'institution judiciaire.
Bonne blague. Enfin, elle dit quand même, cette blague, l'exceptionnalité du procès. Et ça dit aussi que de tels dispositifs sont dépendants des moyens alloués à la justice. Et le quoi qu'il en coûte, c'est pas sûr qu'il dure très longtemps. Bon, à ce moment-là, j'avais fait le tour des questions que je voulais poser à Julien Quéré. Bon, en fait, j'en avais d'autres. Peut-être plus informatique. J'aurais aimé savoir, par exemple, s'il y a eu des tentatives de piratage constatées sur la web radio. Mais bon, il m'avait prévenu, Julien, qu'il n'avait pas les réponses à ça. Donc, je pensais en avoir fini et j'étais prêt à éteindre mon enregistreur quand Julien m'a demandé s'il pouvait ajouter quelque chose. Là, sa voix s'est faite plus émue. Je l'ai écouté assez gravement, même si j'ai pas tout de suite compris où il voulait en venir.
Ça pouvait être compliqué psychologiquement pour les parties civiles de monter ces marches du palais, d'arriver dans cette grande salle avec tous ces journalistes, tous ces gendarmes, toutes ces robes. Je ne suis pas partie civile et je ne suis que magistrat, mais on arrivait à appréhender toutes les difficultés pour les parties civiles. On a remarqué au fur et à mesure des audiences et des jours qui se sont écoulés, et avec le temps que nous a laissé ce procès, je vous le dis, 10 mois, qu'une communauté s'était créée. Il y a une mini-société qui s'est créée au sein de ce palais de justice et même aux abords, parfois. Et je sentais que les parties civiles étaient non pas chez elles, mais qu'elles arrivaient dans un endroit où, en tout cas, elles étaient à l'aise. Et c'était ça qu'on cherchait à faire, même qu'on a construit la salle, qu'on a mis en place les psychologues de Paris Aide aux Victimes, les vacataires. Après, je n'oublie pas tous ceux qui, ne sont pas venus pendant le procès, qui n'ont pas suivi à distance, et ceux qui ont suivi à distance mais qui ne sont pas venus. Je ne les oublie pas et je sais qu'un certain nombre ont pu marquer leur désappointement quand on a parlé de ce procès. On parlait justement de tous ceux qui venaient. Voilà, juste qu'ils sachent qu'on n'oublie pas tous les autres. Il y a ceux qui n'ont pas eu les capacités psychologiques ou physiques de venir jusqu'au palais. Il y a ceux qui n'ont pas pu se connecter à la web radio, là encore, psychologiquement. Il y a ceux qui ont décidé de tirer un trait et de passer à autre chose. Donc voilà, on n'oublie pas toutes ces parties civiles. Elles étaient représentées par leurs avocats dans le cadre des débats. Mais je voulais avoir, malgré tout, avoir un petit mot pour elles aussi. Parce que comme on a vécu dans cette petite communauté, des fois, on a l'impression qu'il n'y a que cette communauté qui existait. On sait qu'il y en avait d'autres.
Je crois que c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris ce qu'avait été ce procès pour Julien Quéré. La place qu'il avait eue dans sa vie et qu'il aurait sans doute encore pour longtemps. Parce que, sans parler des victimes et de leurs proches évidemment, pour tous les autres participants, ça a été quelque chose de profondément bouleversant, au sens le plus fort du terme, ce procès. Ça, je le sais par mes copains journalistes, Violette Lazare et Mathieu Delahousse, qui l'ont suivi pour le Nouvel Obs. Julien, lui, il le dit, mais pour les magistrats et les organisateurs. Et c'est de ça dont on a discuté en redescendant l'escalier étroit du palais de justice. Julien Quéré m'a raconté ce que ça avait été pour lui, ce que ça avait été pour sa famille, et il m'a parlé de tous ces gens, y compris les accusés, qu'il avait côtoyés pendant ces 10 mois. Et puis, tout à coup, il s'est arrêté et il m'a dit « Ah, mais je sais qui vous devriez rencontrer ». Il y a une bande de chercheurs qui travaillent sur les procès de terreau. Et bien, ils ont sûrement des choses intéressantes à dire sur la web radio. Alors, je sais pas si c'était un signe du destin, mais quand on est arrivé sur les marches du palais de justice, on est tombé sur 2 membres de cette fameuse bande de chercheurs sur les procès terreau. Ils étaient là parce qu'ils attendaient le verdict du procès Patty qui devait être prononcé en fin d'après-midi. Ils étaient très occupés, alors on a juste discuté 5 minutes, j'ai pris leur numéro et on a convenu de se revoir. Mais en attendant, il y avait quelqu'un d'autre à voir. Julien Quéré a évoqué le numéro qui était inscrit sur le player de la web radio. Un numéro qui tombait sur une permanence psychologique. Et ça, depuis que Arthur l'avait évoqué dans le premier épisode, eh ben ça me titillait. Qui a appelé cette ligne ? Pour dire quoi ? C'est pas que j'espère plonger dans les âmes des gens qui ont écouté la web radio, mais au moins saisir en creux les conditions si singulières qu'elle a créées. Alors, Julien a accepté de me mettre en contact avec Carole Damiani, qui a coordonné cette permanence. Elle est psychologue et elle dirige l'association Paris Aide aux Victimes, qui est mandatée depuis une vingtaine d'années pour accompagner les parties civiles tout au long des procès, et notamment les procès en terrorisme. Carole Damiani, elle a donc une vision de long terme. Et j'espère que ça va me permettre de mieux comprendre en quoi la web radio a créé une situation particulière, enfin, en tout cas, nouvelle. Carole Damiani me raconte que très vite, une fois la création de la web radio actée, la décision a été prise qu'il y aurait une ligne téléphonique et une permanence spécialement dédiée à ses auditeurs. Parce que, commence-t-elle à m'expliquer, hein, l'équipe de psy se demande bien comment elle pourra faire son travail d'accompagnement à distance.
Quand nous sommes dans une salle d'assises, on voit les victimes. Donc on voit quand elles vont bien, pas bien, même si elles le masquent. On est vigilant, on garde un œil en se disant « bon, là, il y a quelqu'un qui est prêt à craquer, il y a quelqu'un qui est plutôt dans l'angoisse ». Là, aucun indice. On n'a aucun moyen d'avoir une démarche ou préventive ou proactive. On ne peut être que soumis au fait que les personnes ont envie d'appeler ou pas, alors qu'elles peuvent aller très mal. Donc c'était ça qui était l'inquiétude, c'est de ne pas pouvoir détecter ceux qui ne seraient pas bien au cours des débats. C'est quasiment une liturgie, un procès avec des moments particuliers, avec des moments quasi entre guillemets sacrés, bien entendu, et que tout est fait aussi pour la libération des émotions. C'est très cathartique. Un procès, c'est fait pour ça. Et il y a une salle pour le contenir. Donc la crainte aussi, c'est où est-ce que cette colère, ces émotions vont aller s'il n'y a rien pour les accueillir. Donc ce que nous avons fait, qui était peut-être le moins pire, c'était de demander au président, à chaque fois qu'il allait entrer dans une séquence un petit peu compliquée, par exemple au début de la projection de la vidéo, quand il y aura du son, ou au début des témoignages, ou de certains témoignages en tout cas, de prévenir en disant « n'oubliez pas le numéro de la ligne, etc. » Et le numéro de la ligne était rediffusé à ce moment-là.
Et il était en plus inscrit sur l'application. Ok, il y a donc ces précautions qui sont prises. Mais j'aimerais savoir quelles implications elles ont eues sur le dispositif prévu par les psys de l'association.
Donc on a pris au départ une plage très étendue, toujours au moins un psy au bout du fil, et des horaires un peu avant le début du procès. Le procès débutait à 13h, donc la ligne était ouverte à partir de 10h, et jusque 2h après la fin du procès, et le samedi matin. Et en fait, on s'aperçoit que les victimes n'ont jamais appelé le samedi matin. C'était soit tout de suite, soit elles n'appelaient pas. Donc on a commencé à réduire le temps, puisqu'en fait, il y avait un besoin online, mais pas en différé. Donc on a supprimé le temps avant, le temps après et le samedi.
Intéressant, hein, ce constat que l'aide, quand elle est nécessaire, l'est sur le moment. Bon, j'espère que la suite de la discussion me permettra de comprendre pourquoi, mais en attendant, je continue sur le dispositif. Moi, j'imagine les psys de permanence assis dans un bureau pendant toute la durée de l'audience, à attendre que le téléphone sonne. Ah mais pas du tout, me détrompe Carole Damiani. Les psys sont dans la salle d'audience.
C'est-à-dire que les téléphones, on les a sur nous, c'est des portables, on les a sur nous, donc quelqu'un appelle, on sort.
Mais il y a une demi-heure de décalage, donc il y avait...
Oui,
alors comment vous faisiez ?
Je sais pas, gênant, on sort de la salle. On n'était pas dans une salle à attendre que ça vienne, il y avait tellement peu d'appels que c'était... Au départ, je l'avais conçu comme ça, avec une vraie permanence, etc. Mais en fait, ils appelaient pas, donc on était dans la salle, et quand ça sonnait, on sortait. Cette ligne d'assistance, elle ne pouvait pas être tenue par des psys qui seraient complètement extérieurs. Parce que quand ils nous appelaient, ce qu'ils disaient, c'est « vous l'avez entendu tout à l'heure, ce qu'ils nous disaient, etc. Mais j'ai réagi à ça, etc. » Donc, ils savaient qu'on était là. Ils savaient qu'on était aussi dedans. C'est-à-dire, c'est bien parce qu'on était dedans aussi qu'ils souhaitaient avoir cette relation avec nous.
Alors, c'est passionnant, cette question du « dedans-dehors ». Et je pense qu'elle est au centre de la web radio. Participer au procès sans y être physiquement, mais avoir besoin que le psy y soit, lui, comme une sorte de relais de présence. Pour autant, Carole Damiani a l'air de dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'appels. Alors, avant de lui demander pourquoi, je voudrais savoir si elle arrive à déterminer ce qui déclenchait les rares appels.
C'est comme dans la salle, c'était les mêmes. C'est-à-dire, dès qu'il y avait une provocation, dès qu'il y avait un incident, certains témoignages aussi qui étaient plus générateurs d'émotions que d'autres. Ce sont ces moments-là, mais beaucoup des propos des auteurs, des accusés.
La parole des accusés. Ça fait écho à ce que Magali m'avait raconté, là, son effondrement en pleurs quand Salah Abdeslam, seul membre du commando encore vivant, a eu recours à son droit au silence. Et donc, les rares parties civiles qui appelaient, qu'est-ce qu'elles attendaient du psy auquel elles parlaient? Parce que c'est pas évident non plus de faire du bien à distance, au téléphone.
Dans des procès, il y a des émotions qui sont, entre guillemets, toxiques. C'est-à-dire, elles vous envahissent, elles vous mangent, elles vous empêchent de raisonner, de penser, parce qu'elles sont trop envahissantes, trop intenses, trop violentes. Et celles-là, il faut les évacuer. Et le meilleur moyen d'en faire quelque chose, c'est d'en parler, comprendre pourquoi il y a eu cette telle émotion, cette telle violence, à quoi ça renvoie. Et d'en parler, ça permet aussi de les dépasser. Et puis, il y a des émotions qui sont... Mais enfin, parce qu'il y en a qui nous disent « Ah ben moi j'ai pas de colère, j'ai pas de ci, j'ai pas ça, tout va bien, ouais, oui, d'accord. » Et puis tout d'un coup, ça craque, mais ça craque parce que enfin ça craque. Et là c'est bien aussi, mais c'est bien d'en parler. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir cette oreille qui permet de distinguer aussi la nature de l'émotion qui est là. Et pas de se dire « c'est une émotion négative, n'y pensez pas, ou mettez-la de côté, c'est négatif, vous n'avez pas à ressentir de la colère, vous n'avez pas à être coupable ». Mais si sur leur tribunal intérieur ils se sentent coupables, c'est qu'il y a une raison quelque part, autant en parler. Et parfois, ben, c'est là que ça naît et c'est important d'être là à ce moment-là, parce que ça peut être très fugitif aussi ce moment. Parce qu'après, on peut remettre la chape de plomb, s'il n'y a pas une réponse aussi un petit peu rapide.
Là, je comprends ce que disait Carole Damiani tout à l'heure, sur le besoin d'une écoute en direct, sur le moment. Mais comment elle explique qu'il y a eu si peu d'appels?
Avant la mise en place de la web radio, je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée, mais j'avais l'idée que ça serait du tout ou rien. C'est-à-dire soit la web radio, soit il venait, soit rien du tout. Et en fait, ce n'était pas ça du tout qui s'est passé, ça a été beaucoup plus un mixte. C'est-à-dire qu'ils venaient certains jours, ils avaient un choix en disant par exemple « là, ce jour-là, il y aura trop d'émotions, j'y vais pas, je préfère être tout seul » ou « au contraire, j'ai besoin d'être avec les autres, donc j'y suis ». Donc ils ont fait un mixte. Et comme ils nous connaissaient dans la salle, ils ont préféré nous parler de ce qu'ils vivaient avec la web radio de visu que de nous appeler.
Plein d'informations dans ce que vient de dire Carole Damiani. D'abord, le constat de pratiques mixtes. Parmi les gens qui ont écouté la web radio, beaucoup venaient aussi au procès, et réciproquement d'ailleurs. C'est très intéressant cette question des pratiques mixtes, et ça me rappelle plein de discussions concernant d'autres pratiques numériques. En musique par exemple, je me souviens d'études montrant que les gens qui consommaient le plus de musique en ligne étaient aussi ceux qui allaient le plus au concert. Même chose pour les acheteurs de livres numériques. Et dans les réseaux sociaux, même phénomène. Des études ont montré que les gens avec lesquels on interagit le plus souvent en ligne sont aussi ceux qu'on voit le plus souvent. Alors, moi j'y vois deux enseignements. Le premier est d'ordre général. On a souvent une vision assez binaire des comportements, ce qui était d'ailleurs celle de Carole Damiani avant le procès, hein, elle le dit. On pense intuitivement que les gens ont des pratiques assez étanches, numériques d'un côté, physiques de l'autre. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe. Et le second enseignement, il porte sur le procès lui-même. Ce que dit Carole Damiani permet d'émettre l'hypothèse que ce sont un peu les mêmes qui ont écouté la web radio et qui sont allés au procès. Et quand je lui fais la remarque, eh ben elle en tire une conclusion hyper intéressante sur la web radio en général.
C'est venu comme un outil qui est complémentaire pour ceux qui s'intéressent, mais ça ne permet pas d'aller chercher ceux qui ne s'intéressent pas au procès.
Ça, c'est passionnant. Parce que, en permettant aux personnes qui voulaient ou pouvaient s'intéresser au procès de le suivre tout en préservant leur vie professionnelle et privée, eh ben, la web radio, elle a rempli sa fonction. Elle leur a permis de choisir leur moment. En revanche, elle n'a sans doute pas été un levier pour les autres. Vraisemblablement, la web radio n'a pas attiré des parties civiles qui avaient décidé de se tenir à l'écart. Et là, je comprends mieux ce que m'a dit Julien Quéré à la toute fin de notre discussion. Le souci qu'il a eu de signifier à ceux qui se sont tenus à l'écart, à ceux que la web radio n'a pas suffi à convaincre qu'ils pouvaient participer au procès sans y venir, de leur signifier qu'ils n'avaient pas été oubliés. Mais bon, revenons aux appels reçus. Peu d'appels donc. Mais des appels de qui ?
Les victimes directement concernées ne nous appelaient pas obligatoirement, mais on a eu plein de demandes de la part des proches, des conjoints ou des parents qui nous disaient « mon mari ou autre, il est happé, il ne participe plus à la vie de famille, on n'existe plus et ça devient une addiction ». Et en fait, le problème psychologique qui a été le plus courant et qu'on n'avait pas du tout prévu à l'avance, c'est une addiction à la web radio.
Addiction, c'est quand même très fort. Et ça me fait tiquer. Ça me fait tiquer d'abord parce que je suis toujours dubitatif sur l'emploi du terme d'addiction concernant les pratiques numériques. Et même si deux personnes, ça fait pas un échantillon, hein, je tique parce que c'est pas du tout ce que m'ont raconté Magali et Arthur. Enfin, l'un et l'autre, ils m'ont pas donné l'impression d'avoir été addicts. Donc, je demande à Carole Damiani de me préciser.
Notamment le procès V13, peut-être plus que les autres, a déclenché un phénomène de groupe très fort. Il y avait quelque chose de l'ordre de la communauté. Et c'était assez insupportable pour certains de se dire « je n'y suis pas, je ne suis pas avec les autres ». Et ils avaient besoin d'être avec les autres. Donc, quand ils ne pouvaient pas venir physiquement, le seul moyen d'être avec tout le monde, c'est d'être avec la web radio. Donc d'être là, sans être là, avec ce choix-là.
Ok, c'est le procès en lui-même et l'espèce de communauté qu'il a formée qui provoquait le besoin. Encore une fois, ça dit bien que la web radio n'était pas forcément quelque chose qui isolait, elle pouvait aussi bien relier aux autres. Et là on se dit, ah mais quel magnifique dépassement de la dialectique, on peut faire communauté in absentia. Ouais, le problème c'est que si elle pouvait relier une partie civile à la communauté qui existait chaque jour au palais de justice, eh ben, la web radio, elle pouvait le faire au prix d'un arrachement à une autre communauté, celle de la famille, des amis. Et là, la dialectique entre présence physique et présence numérique, eh ben, elle devient décidément encore plus complexe. C'est super intéressant. Mais c'est quoi le mécanisme psychique qui rend un procès addictif ?
Le fait d'avoir peur de rater quelque chose. Même physiquement, il y a des personnes qui disent « bon, je passe une heure ». Puis on les retrouve le soir encore assis sur leur banc. Donc il y a quelque chose dans le procès qui fait qu'il peut y avoir quelque chose de fascinant. Et cette fascination, elle est peut-être plus facilement gérable quand il y a quelqu'un qui vous dit bah, « tiens, vous êtes encore là, et qu'est-ce que vous faites ?» et on peut sortir ensemble, que lorsqu'ils sont seuls face à l'écoute.
D'accord. Donc ce qui rendait l'écoute plus addictif peut-être que le suivi du procès lui-même en physique, c'est la solitude de cette écoute. Mais là, je me pose une question. Est-ce que tout cela n'était pas facilité aussi par cet outil spécifique qu'est la radio et par ce vecteur qu'est le son ? Dans l'épisode précédent, hein, Arthur Desnouveaux a parlé du caractère immersif de la web radio.
Il y a à la fois le fait d'être dedans, parce qu'on entend tout, il y a les débats, et puis on est très proche, la voix, elle est là. Elle est très très proche, donc ils sont véritablement dedans. Et il n'y a pas la prise de distance possible par la distance physique avec les autres qui passent, qui sont là, qui parlent, qui détournent éventuellement. Là, ils sont seuls. Et il n'y a rien qui peut les détourner quelque part. S'ils ont décidé de ne pas l'être, eh bien, ne le sont pas. Ce qui était très étonnant, c'est qu'il y en a qui disaient quand même qu'ils le faisaient sur leurs heures de travail. Et donc, comment maintenir son attention alors qu'on est dans un environnement qui n'est pas propice à ça pour ça ? Et pourtant, il y en avait qui arrivaient à rester et qui continuaient à écouter, ils l'avaient dans les écouteurs, même quand ils repartaient en métro jusqu'à chez eux et ils ne décollaient pas de leur écoute.
Alors là, c'est drôle parce qu'on retrouve des choses racontées par Magali et Arthur et que ni eux, ni leurs proches, manifestement, ni moi d'ailleurs, non identifié comme de l'addiction. Alors, est-ce qu'on se leurre ? J'en sais rien. Mais bon, la question qui se pose, c'est comment on traite ça en tant que psy quand des proches appellent le numéro parce qu'ils sont inquiets ? On peut pas convoquer d'autorité la partie civile concernée.
Eh bien non, ce sont des adultes, c'est chacun qui est libre et maître. La seule chose que je leur disais, c'était demander-leur de nous appeler si eux ressentent le besoin. Mais il n'y en a aucun qui appelait. C'était l'inquiétude des proches qui disaient « il n'est plus avec nous ». Mais eux, ils ne se sentaient pas en dehors.
Et qu'est-ce que vous disiez aux proches ?
Eh bien, qu'il fallait qu'ils prennent leur mal en patience. Enfin, c'est difficile de leur dire autrement. La seule chose, c'était de leur dire si vous sentez des signes de vraie souffrance. C'est-à-dire, ils ont des troubles du sommeil, ils n'endorment pas, ils ont de nouveau des reviviscences. Là, peut-être, soyez vigilants, ça veut dire qu'ils sont dans une grande souffrance. Mais quand il n'y avait pas d'autres signes extérieurs que celle de cet accrochage, il n'y avait pas de risque par ailleurs.
Ça ne vous inquiétait pas ?
On a rédigé une fiche en disant « Attention, faites des pauses, des fiches de conseil. Ne vous laissez pas, n'hésitez pas à arrêter. Faites attention qu'il n'y ait pas d'enfants dans la pièce, etc. » Mais on ne peut pas non plus les obliger. On n'a pas le pouvoir de se dire bah, « Tiens, je vais leur couper la ligne. » Ce n'est pas possible.
Donc, pour ceux dont les proches s'inquiètent de leur absorption par la web radio, les psys en sont réduits à l'impuissance. Mais Carole a dit tout à l'heure que des gens qui avaient des pratiques mixtes venaient parfois à l'audience lui parler de ce qu'ils avaient ressenti en écoutant à la web radio. Et à ce moment-là, donc, quel était leur ressenti, comme on dit ?
Ça leur donnait un contrôle. Certains disaient, par exemple, bah, « Demain, je viens pas parce que ça va être trop dur et je supporterai pas. Chez moi, je peux couper. C'est moi qui suis maître de ce qui va se passer. » Et ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé très positif, de pouvoir se rendre maître, de pouvoir se rendre actif, d'avoir un rôle possible. C'était vraiment quelque chose qui était positif pour eux.
Et j'imagine que quand on a vécu ce qu'ont vécu les partis civils du 13 novembre, eh ben, toute forme de contrôle est la bienvenue. Donc, du point de vue de Carole Damiani, je suppose que le bilan général est plutôt positif.
C'est une expérience pour moi positive parce que à V13, elle a eu beaucoup de succès. On a eu beaucoup d'échanges autour de cette web radio. Il y a des choses qui sont passées, des choses qu'on attendait, qu'on n'a pas observées. Donc c'était vraiment intéressant. Cette expérience a été reproduite pour deux procès, elle n'a pas marché. Par exemple, pour le procès de l'appel du médiateur, il y avait presque personne qui a écouté la web radio. Donc on se dit, c'était positif pour ce procès-là. Ça ne veut pas dire que ce sera la panacée pour chacun des procès, puisque dans d'autres, ça n'a pas eu du tout le même impact et le même succès.
Pour Nice, par exemple, ça n'a pas bien marché.
Ça n'a pas eu la même audience que pour V13.
Comment vous l'expliquez, ça ?
Pour Nice, les victimes n'étaient pas les mêmes que V13. Elles n'avaient pas la même connaissance, la même préparation. Les victimes de V13 étaient énormément préparées. Elles connaissaient pour beaucoup le dossier, certaines sur le bout des doigts. Donc, elles s'attendaient à entendre certaines choses. Par exemple, elles se disaient « Bon, celui-là, il a dit telle chose auparavant, je veux retrouver ça, etc. » Ce qui faisait qu'il fallait qu'elles soient là, que ce soit par la web radio ou physiquement, en tout cas. Elles attendaient vraiment quelque chose. Nice, la préparation n'était pas du tout la même.
Donc, malgré un accès possible depuis l'étranger et une traduction, la web radio a beaucoup moins bien fonctionné pour le procès de Nice. Ce qui est assez contre-intuitif, hein, étant donné que le procès de Nice se déroulait à Paris, ce qui rendait compliqué la présence des parties civiles. Bon, alors, je sais qu'une salle de retransmission avait été installée à Nice, enfin, quand même, ça explique pas complètement que la web radio est moins attirée. Tout comme celle créée pour le procès en appel du médiateur, troisième expérimentation de la web radio, où les parties civiles étaient aussi très nombreuses. Alors, les raisons avancées par Carole Damiani, elles sont convaincantes, mais elles disent quelque chose de très important. Le succès de la web radio n'est pas forcément réplicable pour d'autres procès. Peut-être qu'elle a tenu son rôle pour V13 en raison des spécificités de ce procès. De la communauté particulière créée par ces victimes, de la place qu'ont pris ces attentats dans la mémoire collective, je sais pas. Enfin, il m'apparaît que l'histoire de la web radio raconte aussi d'une certaine manière cet événement en particulier que furent les attentats du 13 novembre, notamment le Bataclan et les terrasses, en termes de catégories d'âge et socioprofessionnels touchés. La possibilité technique offerte par le numérique n'est jamais hors sol. Elle est toujours relative à un contexte sociologique. Alors, je pensais qu'on allait discuter de ça avec les chercheurs des procès de Terreau quand je les retrouve un midi devant le palais de justice. Ils sont deux. Aurore Jouvenel est historienne et Antoine Mégier est enseignant-chercheur en sciences politiques à la fac de Rouen. Ils font partie d'un collectif multidisciplinaire qui s'appelle Prométhée. Alors il y a des spécialistes du son, des sociologues de la radicalisation, des anthropologues qui s'intéressent aux rituels judiciaires, il y a même un dessinateur aussi d'après ce que j'ai compris. Et chacun, depuis sa discipline, a fait du procès terroriste son objet de recherche. Le collectif s'est constitué en 2015 et leur méthode c'est de se rendre sur place, d'observer, d'interroger les acteurs du procès, enfin de vivre vraiment l'expérience de l'audience. Et rien que ça, moi, ça me donne envie de les rencontrer. Alors, on se pose dans un couloir du palais de justice, de temps en temps traversé par des magistrats, des fonctionnaires ou des avocats en robe. Et dès que j'allume l'enregistreur, eh ben, on se met à avoir des considérations très, très matérielles. Antoine me parle de la salle d'audience qui a été construite à l'occasion du procès du 13 novembre, parce que, manifestement, il a fallu un peu de temps pour que tout le monde comprenne que le son allait être aussi important dans ce procès.
L'architecture a d'abord été pensée par rapport aux box, par rapport à des places, et pas par rapport au son. Il y a eu un exemple, très rapidement, d'une personne qui a expliqué qu'il ne se voyait pas se baisser pour parler au micro devant la cour. Et donc, quelques jours après, le président, je crois, dit, vous voyez, les micros ont un peu poussé, ou en tout cas ont été rallongés.
C'est marrant parce que, même si Julien Quéré l'a vite évoqué un moment, j'avais complètement évacué cet aspect des choses. Faire une bonne captation de l'audience, c'est un souci qui a préexisté à la web radio. Mais on peut imaginer en effet que la web radio a augmenté ce souci. Il faut qu'on soit certain qu'une partie civile qui écoute dans son salon un témoignage qui la concerne de près puisse bien entendre. Et qui dit prise de son dit micro. Qu'est-ce que ça produit la présence d'un micro ?
Eh bien ça produit qu'on doit parler bien en face du micro. On ne doit pas parler trop près, on ne doit pas parler trop loin, on ne doit pas tourner la tête. Et ce système de micro pose des problèmes en termes de débats contradictoires. C'était par exemple le président qui allumait les micros. Et certains avocats se sont vus refuser de se faire allumer le micro, de sorte qu'ils ont eu des interactions hors micro. Eh bien, ça veut dire que sur la bande-son, on n'entend pas ces interactions. On entend que le président n'entend pas ce que dit l'autre avocat. Donc ça, ça pose question.
En effet, ça pose question. Encore une fois, le micro n'est pas seulement là pour la web radio. Mais ce que raconte Aurore rappelle deux choses importantes. L'expérience de la web radio est sans doute très différente de l'expérience de la salle d'audience. Deuxièmement, un dispositif technique de prise de son a des effets sur l'audience et qui peuvent toucher au déroulement même de cette audience.
Dans la police de l'audience et dans la manière dont le président a pu mener certains débats, certains moments du débat, il prenait en compte le fait qu'il y ait une web radio.
Et il y a régulièrement eu en audience des interventions d'avocats en cours d'audience dont les clients étaient en train d'écouter la web radio et qui faisaient des remarques.
Mes clients nous écoutent par la web radio ou des SMS envoyés, tu crois, aux avocats, c'est ça ?
Ah oui,
ouais, c'est ça.
C'est sûr. c'est sûr.
Ça, c'est très convergent avec ce que racontait Arthur au sujet du rapport entre les avocats et les parties civiles. Ce qui est intéressant, c'est que cette forme d'interaction entre intérieur et extérieur de la salle, eh ben, c'est manifestement pas la seule.
Les témoignages que les personnes à la web radio ont entendus ont produit aussi parfois des effets sur le discours, des récits collectifs. Je t'ai entendu à la web radio, j'ai compris quelque chose sur mon histoire à moi. Et puis d'autres qui disaient, c'est à la web radio que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je vienne témoigner. Donc il y a eu ces effets-là aussi de partage d'un discours qui a pu aussi être progressivement construit entre les parties civiles.
C'est très intéressant ce que dit Antoine là. Grâce à la radio, les parties civiles se sont en effet beaucoup plus écoutées témoigner les unes que les autres qu'elles ne l'auraient fait sans. Et donc, sans doute que la web radio a participé à la solidification d'une communauté qui n'existait pas seulement à l'intérieur de l'enceinte du palais de justice. Et ça, y compris d'un point de vue discursif. Mais bon, il faudrait vraiment l'étudier dans le détail. Mais en attendant, je serais curieux de savoir comment eux, Aurore et Antoine, ils regardent la web radio depuis leur grande connaissance des procès terroristes et de l'institution judiciaire. Pourquoi ça les intéresse tout ça ?
La singularité de ces procès historiques, voire même de la justice antiterroriste, c'est qu'ils laissent des traces ensuite dans le dispositif plus global de la justice. L'introduction de la web radio pour le procès historique du terrorisme, c'est une avant-première. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, cette solution fait partie de la panoplie des dispositifs que les autorités judiciaires peuvent mettre en place pour un futur procès. On a beaucoup de travaux sur l'introduction de la visioconférence dans la justice et les perturbations que cela produit sur la question de la parole, la question des jugements ou même de la considération finalement des témoignages. Voilà, c'est aussi des éléments qui viennent traverser plus globalement le système judiciaire et la justice du XXIe siècle.
En me rappelant ce que disait Carole Damiani sur le fait que l'expérience avait été moins convaincante dans le cadre du procès de Nice et du médiateur en appel, Je me dis qu'il est possible aussi que la web radio, ce soit pas souvent renouvelé comme expérience, même si c'est désormais possible juridiquement. Ce qui fait jaillir une question un peu bête. Est-ce que Aurore et Antoine ont eu l'occasion de l'entendre ?
Non, moi j'ai jamais entendu la web radio. De toute façon, tout ce qui a été passé par la web radio n'existe plus.
C'était... Du tout, ça n'a pas été archivé quelque part.
Et non, ça fait partie justement des conditions réglementaires qu'il ne reste rien.
Ça veut dire que là, on est en train de discuter d'un truc...
qui n'existe plus.
Et pour vous, chercheurs, ça pose un énorme problème. C'est-à-dire que si vous, un jour, vous décidez de travailler vraiment sur la web radio, vous n'aurez jamais accès...
Mais oui, mais ça, c'est le principe de la recherche. C'est-à-dire que c'est comme un puzzle auquel il manque plein de pièces.
Enfin, là, il manque la principale.
Non, parce qu'en fait, on a les personnes qui pourront témoigner de leur usage de ça. On a déjà la trace qu'on a modifié la loi pour créer ça. Pour l'historien, moi, je parle en tant qu'historienne, on a une multitude de sources pour parler de ça. Mais de toute façon, cet objet-là, eh bien oui, il est éphémère.
C'est pour ça aussi qu'on a travaillé sur le moment à recueillir des témoignages, des entretiens. Ces témoignages sur le moment nous permettent d'avoir une mémoire en fait de ces moments, de ces pratiques.
Et puis vous avez des parties civiles qui ont enregistré.
Sûrement.
C'est possible. Mais la vérité, moi, je n'ai réellement jamais entendu de web radio. Et alors, bizarrement, quelque part, ça m'a pas déplu. C'est un univers dans lequel j'ai pas accès. Ouais. Mais c'est vraiment ça aussi le principe de la recherche. Tu sais que l'objet que tu cherches n'est pas exactement ce que tu vas trouver et que tu n'auras pas accès à tout. C'est-à-dire qu'on peut reconstituer un objet qui n'existe plus.
En écoutant mes chercheurs, là, je comprends un truc. Je vais faire deux épisodes du Code sur quelque chose que finalement assez peu de gens ont entendu, à commencer par moi, et que personne n'entendra plus jamais. Quelque chose qui a existé pendant 10 mois, qui a fait pleurer des gens, qui leur a permis de revivre des moments traumatiques, qui a peut-être fait du bien à d'autres gens, quelque chose qui a participé à souder une communauté, qui a perturbé des avocats peut-être, qui a soucié le président parfois, quelque chose qui a été crucial pour ce procès historique, mais dont il ne reste stricto sensu aucune trace. Ou alors, s'il en existe des traces, elles sont éparpillées dans des fichiers bien planqués et qui ne seront jamais lus par personne avant longtemps. Je ne sais pas quelle conclusion il faut en tirer. Si ce n'est que cette disparition nous rappelle que, même si c'est un objet passionnant, on aurait préféré ne jamais avoir à écouter cette web radio. On aurait préféré que ce procès ne se soit jamais déroulé. On aurait tellement préféré que ces attentats n'aient jamais eu lieu. Un grand merci à Arthur Desnouveaux, à Julien Quéré, à Carole Damiani, à Antoine Mégier et Aurore Jouvenel, et un merci spécial à Magali qui est à l'origine de tout ça. À la prise de son, c'était Guillaume Roux et Marie Le Peintre, au mixage Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisation Séverine Gassard.
Le code n'a changé.
Un podcast original de France Inter.